Oui, bonjour. Donc, je suis sur la place Saint-Étienne à Toulouse, devant la préfecture de région. Et comme tous les mois, deuxième mercredi du mois, nous allons remettre des chèques de 6,83 euros au préfet de région. Ces chèques sont à l'ordre de Nicolas Sarkozy. C'est pour dire, pour dénoncer son mépris quand on lui parle de personnes en situation de handicap ou de maladie invalidante et qui répond 1,1% d'augmentation au 1er janvier portant l'allocation adulte handicapé à 628 euros. Or, on sait très bien qu'aujourd'hui, on ne peut pas vivre avec 628 euros et qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas ou plus travailler. Il ne répond que misère et travail, misère et travail. Donc, quand vous entendrez ce message, nous serons en train de remettre des chèques. Des personnes en situation de handicap font des chèques et les remettent à Sarkozy.
Bon alors, je vois que d'ici 2012, on aura les prestations sociales divisées par 4. Il n'y aura plus de bio et il y aura des OGM à peu près partout. Quoi ? Quoi Hulot ? Qui c'est ? Qui c'est Hulot ? Mais c'est comme si vous me demandez qui c'est Glucksmann, qui c'est Attali, qui c'est BHL, qui c'est Hulot. Oh. Au revoir.
Bonjour Daniel, c'est Nicole Piard des Juras, à Prat. Je viens d'entendre aux infos de 14h que M. Fillon exigeait de Nathalie Kosciusko-Morizet des excuses à l'endroit de M. Borloo et Copé, et à 15h qu'elle venait de le faire. Et je me dis, pauvre jeune femme engagée dans une partie de bras de fer avec les élites de l'UMP, j'ignore quelles sont les conditions de recrutement de secrétaire d'État et quelles sont les raisons qui font qu'elle s'y accroche. J'aurais souhaité qu'elle refusât de les faire, ces excuses. Ça aurait eu de la gueule, je trouve. Pourquoi se prennent-ils, ces mecs? Nous en font-ils des excuses à nous, les citoyens, pour toutes les promesses bafouées, les erreurs de gestion, les cadeaux faits à leurs pères, les riches, les trous de la sécu qui proviennent des non-respects d'engagement de l'État et qu'on nous fait payer de plus en plus cher. Et je me dis parfois, mais qu'est-ce qu'on attend pour descendre dans la rue? Voilà, Daniel, à plus.
Bravo, bravo à tous ces députés et sénateurs là, qui ont fait passer la loi OGM, qui font des faucheurs, mais des graves, graves criminels. 3 ans de prison, c'est horrible. Et je vais apporter mon soutien aussi à Nathalie Kosciusko-Morizet, qui a eu le courage de dire tout haut ce que beaucoup pensent tout bas. Et je salue cette nouvelle ère de lobbycratie. Nous sommes en lobbycratie. Merci à tous ces gens qui nous font courir un risque sans rien en connaître. Et je plains cette pauvre journaliste qui a fait 3 ans de boulot pour essayer d'édifier les consciences et qui se retrouve discrédité par ces espèces de connards de sénateurs. Je suis dégoûté là. Là, je regarde les champs pesticidés tout autour de moi et je me dis qu'on est, c'est pas prêt de s'arranger. Quoi. Bravo, bravo encore à nos sénateurs et députés. Quoi. Honte à eux.
Bonjour, Gérard d'Allemagne. Je viens de découvrir sur Internet une information datée d'hier qui nous annonce que le prix Nobel alternatif de l'année 2007, le Canadien Percy Schmeiser, qui est très connu, vient d'emporter son procès définitivement contre Monsanto. Voilà, une mauvaise nouvelle au Parlement français s'équilibre par une nouvelle, disons, positive qui nous parvient du Canada. Il a donc gagné sur toute la ligne. Monsanto, une heure avant le procès, a accepté toutes les conditions que Percy Schmeiser mettait à sa plainte, puisque c'est lui qui s'est retourné contre la firme. Et cette décision pourrait très bien avoir un effet positif sur tous les agriculteurs du monde entier qui se débattent avec Monsanto. Alors on s'étonne qu'après une bonne dizaine d'années d'expérience canadienne, on s'étonne qu'en France, on n'ait toujours pas compris ni tiré les bonnes conclusions de cette affaire, parce que les méthodes véritablement fascistes développées par les multinationales telles que Monsanto sont absolument abominables, enfin c'est intolérable. Délation, déstabilisation personnelle, familiale et sociale, menaces, chantage, pression, intimidation, etc. En conclusion, notre ami Percy, je traduis, nous dit que les Canadiens ne savaient pas il y a 10 ans ce qui leur venait en acceptant cette technique, ces techniques de manipulation génétique, aujourd'hui, ils savent qu'ils ont fait une erreur d'introduire cette marchandise dans leur pays, et ils souhaitent aux Européens qui ont encore le choix, la liberté du choix, d'ouvrir les yeux, de voir la réalité qui se passe dans d'autres pays, entre autres le Canada, et de tirer les conséquences, les leçons de cette histoire, et de prendre les bonnes décisions. C'est ce que Percy Schmeiser donc nous souhaite à l'issue d'une de ses conférences, à laquelle nous avons assisté. Nous l'avons reçu donc dans le pays ici, puisque la région est très motivée de garder une indépendance, d'être totalement exempte de toute semence génétiquement manipulée.
Merci pour ce message d'un auditeur venu d'Allemagne. Percy Schmeiser s'appelle ce prix Nobel alternatif. Effectivement, en allant vous balader sur Internet, vous pouvez avoir des informations tout à fait édifiantes sur ce procès avec Monsanto. On voit que le film, le monde selon Monsanto, fait son chemin, mais ne fait pas son chemin jusqu'au bout, puisque vous savez ce qui est arrivé évidemment sur cette loi. Et la position assez étrange qu'a pris Nathalie Kosciusko-Morizet, étrange de rester. Enfin, ça c'est un avis tout à fait personnel. Des avis personnels, on va en avoir d'autres dans l'heure d'aujourd'hui, avec le monde diplomatique. Chaque mois, on se retrouve avec l'équipe du monde diplomatique. Et aujourd'hui, donc, c'est au tour du numéro d'avril. Une petite chose à dire aux AMG, aux auditeurs modestes et géniaux, des repères de la base si j'y suis, s'il vous plaît, lorsque vous laissez des messages pour annoncer vos réunions, faites court, parce que on peut pas les passer tous, sinon le temps des messages n'est pas élastique. Et puis, je rappelle, si vous voulez ouvrir un repère, choisissez dans votre coin, dans votre quartier, dans votre village, vous voulez rencontrer d'autres auditeurs de la base si j'y suis ou de France Inter, c'est une très très bonne idée, c'est ça le principe des repères. Vous vous trouvez un bistrot, un café, mais ouvert, pas un petit machin dans un coin réservé à quelques associations, une association ou quelques militants heureux de se retrouver. Non, quelque chose qui soit ouvert. On a la chance extraordinaire de travailler, d'être écouté, entendu par des auditeurs très variés, de milieux, d'âge, très variés, et on veut, on aimerait, et c'est souvent le cas, retrouver ça dans les repères de la base si j'y suis. Donc, trouver un bistrot ouvert, et puis ensuite vous nous laissez un message sur ce répondeur aux 56 40 37 37 en indiquant vos coordonnées, de façon à ce qu'on bavarde un peu avant de lancer le repère. Voilà, j'ai tout dit. Donc aujourd'hui, le diplo et encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale 056 40 37 37.
Bonjour chers amis des Roms, gitans, manouches, sinté, gypsies et tous les autres tziganes. Si vous voulez assister à des concerts, à des spectacles, à des discussions, voire des expositions, cette semaine, c'est la semaine international des Roms. Alors, pour connaître tout notre programme, regardez bien ce site. Prenez un stylo. Journée, sans accent sur le « et hein, », tiret, mondial, tiret, Rome, avec deux R et un S, parce que nous sommes nombreux. Mais n'oubliez pas les deux R. .org. Voilà. Et ce site vous donnera le calendrier exact des projections, manifestations de tous ordres, dont un spectacle de marionnettes qu'il faut surtout pas louper. Voilà, écoutez, les Roms vous souhaitent la tchodivesse.
Bonjour Daniel, bonjour à tous. Comme nous le savons tous, le gouvernement a instauré des franchises médicales en tout genre. Notre santé est en danger, et ce sont les personnes les plus fragiles qui vont trinquer. Samedi prochain, le 12 avril, les malades, les assurés de la Sécu, sont invités à déposer leur boîte vide de médicaments, devant les préfectures, et pour les Parisiens, devant le ministère de la Santé. Et pourquoi pas, pour ceux qui sont loin des préfectures, devant les sous-préfectures. Venez nombreux manifester votre hostilité aux franchises médicales. Il y va vraiment de l'intérêt de tous. À plus, Yannick Danger.
Geneviève est partie se promener. Et elle a oublié de passer le message aux AMG Ch'tis du Pas-de-Calais d'ailleurs, qui voudraient nous rejoindre. Comme d'habitude, à notre père chez Fabienne, à Manchu-Breton. Alors c'est chez Tartous et compagnie, c'est demain, donc jeudi 10 avril dès 18h. Nous reprendrons un thème traité moult fois, le droit du travail. Plus spécialement, d'un sujet d'actualité, les 35 heures et sa mise à mal. En fait, on a appris récemment que, par le biais d'accords dérogatoires, il y aurait une possibilité aux entreprises de déterminer librement les règles en matière de durée du travail. À quand les 2 heures de travail par jour ? Bon, on évoquera aussi nos problèmes d'alimentation. À propos justement d'une rencontre avec des paysans de l'agriculture paysanne sur Saint-Paul, et bien sûr tout cela autour d'une bonne bière. Et oui, c'est comme ça que ça se passe chez les ch'tis. Donc à bientôt, donc tous les AMG de la région Nord-Pas-de-Calais et d'ailleurs, c'est le jeudi 10 avril dès 18h chez Tartous et compagnie. C'est Fabienne qui vous accueille à Monchy-Breton. À bientôt.
Bonjour, eh ben, en ce moment sur France Inter, il y a un truc dégoûtant, abominable, indigne. Moi je suis consternée, affligée, enfin bon, il s'agit d'un spot publicitaire, non pas celui de l'Olmetter norvégienne, on s'y fait à celui-là. Non, c'est une histoire de nuisible, une histoire d'araignée, une histoire de souris, une histoire de... En fait, c'est juste une histoire de gens. Donc on traite les gens de presque de cafards. Presque de rats. Ces gens-là, c'est les locataires qui ne paient pas leur loyer. Et ce spot, c'est France Inter qui le passe, chaque heure. Voilà, c'est indigne, je suis indignée, c'est affreux.
Alors, on a eu plusieurs messages comme celui-là des auditeurs et on a voulu réécouter ce spot, on ne fait pas toujours très attention. Alors, vous allez effectivement entendre ce spot qui passe régulièrement sur Inter, pas seulement sur Inter, mais qui passe aussi sur Inter.
L'araignée Portae est un arachnide invertébré arthropode à 8 pattes. Elle s'installe généralement dans un appartement inhabité pour y tisser lentement sa toile. Il est très difficile de la déloger, bien qu'elle ne paye aucun loyer et qu'elle dégrade considérablement les lieux. On peut dire qu'elle est vraiment un très mauvais locataire.
Propriétaire, et si vous preniez de vrais locataires ? Avec le pass GRL du 1% logement, vos revenus locatifs sont assurés en cas de défaillance de vos locataires. Pour en savoir plus, passe grl.fr ou 0811 36 0102. Coup d'appel local.
Alors en effet, tantôt le mauvais locataire est comparé à une araignée, tantôt à une souris. Si vous trouvez ça choquant, je vais vous donner le numéro auquel vous pouvez des services des auditeurs de Radio France. C'est le 3230. Vous savez, 3230, vous avez France Inter au bout du fil. Vous pouvez faire le 3230 ou bien vous avez directement le service des auditeurs. C'est auditeur au pluriel, auditeur.inter@radiofrance.com. Assez curieusement, on s'est renseigné et nous serions les seuls, à la base si j'y suis, à être interpellés par les auditeurs pour l'instant. Alors voilà, à vous de jouer. C'est Daniel Mermet, c'est là-bas si j'y suis, avec l'équipe du Monde Diplomatique, pas si diplomatique que ça.
Flight number 2, arriving from...
Maintenant, là. On est en train de marcher, patrouiller en ville. Ouais. C'est quoi à quoi il faut faire attention? Quelle est la mission en gros?
Ouais, c'est ce qu'on appelle le renseignement d'ambiance. Donc, c'est les patrouilles comme on l'a fait là en véhicule. Puis après, on s'arrête, on débarque et on prend avec nous les policiers pour faire des patrouilles à pied pour aller au contact de la population. Ce qui permet aussi d'avoir une bonne image auprès de la population parce que le français a une bonne presse auprès de l'Afghan.
Mais là, on n'est pas en situation de guerre.
Non, on est en maintien de la paix, on va dire. Voilà.
Donc là, votre fusil, il est chargé ou pas?
Non, il n'est pas chargé, on va dire, il est approvisionné. J'ai juste mis un chargeur, mais la cartouche n'est pas engagée. Voilà. On est là pour participer à l'amélioration de la situation sécuritaire de l'Afghanistan.
Alors, Alain Grèche, on va commencer avec vous sur ce numéro 2 du Monde Diplomatique d'avril. Sur la question de l'Afghanistan. Le président Sarkozy, celui qui voulait être caniche à la place du caniche, a décidé d'envoyer On ne sait pas très bien combien d'hommes, d'ailleurs. Il avait d'abord annoncé 1 000 000, puis finalement, le nombre est un peu réduit. Enfin, ce qu'on voit, c'est que c'est un alignement pur et simple sur la politique des États-Unis.
D'abord, ils envoient plus 1 000 000 d'hommes. C'est-à-dire, il y a, en plus du contingent de 700 qu'on envoie, il y a des équipes pour entraîner l'armée afghane. Donc, en fait, on est au-delà 1 000 000 d'hommes supplémentaires. Donc, le contingent français va atteindre 2 500... soldats.
Au total.
Ce qui est important, c'est que cet envoi a été accompagné, si on peut dire, d'un débat assez formel à l'Assemblée nationale, qui a entériné la décision du président de la République, mais qui a mis en lumière quelque chose qui me semble très important, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de consensus en France sur la politique étrangère, et que les clivages n'est pas un clivage gauche-droite, puisque dans les interventions de députés socialistes, on a vu beaucoup de députés socialistes disant qu'ils allaient voter la motion de censure, mais pour des raisons de politique intérieure, mais qu'en revanche, sur la question de l'Afghanistan, il fallait voir que c'était compliqué, que peut-être que c'était important d'envoyer des troupes. Il faut rappeler que c'est un gouvernement de gauche qui a envoyé les premières troupes en Afghanistan. Mais je crois qu'au-delà, ce qui est intéressant, c'est que, en gros, le consensus qui s'est créé après la décision de De Gaulle en 1966 de quitter les structures militaires intégrées est en train de se briser. À l'époque, il y a eu une opposition d'une partie de la droite atlantiste, ce qu'on appelait la droite atlantiste. Mais petit à petit, on a vu se créer un certain consensus. Bien sûr, il y avait des différences entre la gauche et la droite sur les orientations de la politique étrangère française. Ce consensus est terminé. Et ce à quoi on assiste, c'est pas seulement, à mon avis, un clivage atlantiste pas atlantiste, parce que on n'est plus dans les termes de la guerre froide. C'est-à-dire, on n'est plus dans les termes d'un monde divisé en deux blocs où la question de la place de la France était posée. On est plutôt dans la constitution de ce que Hubert Védrine appelle une vision atlantiste occidentaliste, c'est-à-dire dans laquelle l'idée, c'est de créer un bloc commun qui regroupe les États-Unis, les pays européens, un certain nombre d'autres pays, contre une menace qui est représentée par le monde extérieur, alors qu'il comporte, alors selon les gens, essentiellement ce qu'ils appellent l'islamofascisme, la menace terroriste internationale, qui comporte éventuellement la Chine, parfois la Russie, etc. Donc c'est autour de ça que se situe le débat en France, avec aussi un autre débat. Est-ce que la France, en tant que pays, peut avoir une politique autonome? Ou bien est-ce que ce qui avait permis en 66 à De Gaulle de prendre ses décisions, c'est-à-dire une certaine autonomie, n'est plus possible aujourd'hui? Ce qui est la position de Nicolas Sarkozy, c'est-à-dire de dire, nous sommes dans le camp occidental, de toute façon la France n'est plus celle des années 60, et il faut s'inscrire dans cette vision, qui est une vision très américaine, très néoconservatrice et très idéologique, je dirais. Nous sommes dans une situation nouvelle. Encore une fois, c'est-à-dire la décision de De Gaulle de 66, elle correspondait à un monde qui était celui de la guerre froide et de la décolonisation.
Oui, mais l'opinion comprenait à l'époque. L'opinion comprenait ce que De Gaulle faisait. C'est-à-dire on était pour, on était contre, et toutes les décisions qu'il a prises au cours de sa présidence, c'était autant de signes et de décisions que l'opinion comprenait. Est-ce qu'aujourd'hui l'opinion comprend? Est-ce que la décision de Sarkozy correspond à l'opinion?
Non, pas du tout. Ce qui est sûr, c'est que il y a une hostilité à l'engagement français en Afghanistan. Il y a une hostilité à la politique étrangère américaine telle qu'elle est menée aujourd'hui, donc un refus de l'alignement. Il y a, une certaine sympathie pour cette volonté de faire jouer à la France un rôle qui correspond à un rôle autonome aujourd'hui dans le monde. Donc ça ne correspond pas du tout. C'est une des raisons, je dirais, que en partie, je veux dire, le discours de Nicolas Sarkozy, il est à la fois clair et ambigu. C'est-à-dire qu'il est obligé de tenir compte de cette situation, et y compris de l'opposition dans une partie de la droite et une partie de la gauche à ces orientations. Mais enfin, la réalité, c'est pas ça. La réalité, c'est que c'est la réintégration de la France dans l'OTAN, c'est un sommet de l'OTAN qui va avoir lieu entre Strasbourg et l'Allemagne en 2009, et qui va marquer le retour de la France. Et je dirais, c'est le ralliement à une vision qui est, en gros, celle des néoconservateurs américains. C'est-à-dire d'une vision du monde démocratique face au monde extérieur, qui est composé de menaces, que ce soit la Russie, que ce soit la Chine, que ce soit le terrorisme islamique, etc.
Sauf que l'Afghanistan, c'est un bourbier, enfin c'est l'autre merdier.
Je dirais, toutes les grandes puissances depuis 2 siècles se sont embourbées en Afghanistan, c'est les Britanniques, les Soviétiques, et aujourd'hui l'OTAN. Et il n'y a pas de perspective de victoire, il y a une perspective d'essayer de stabiliser la situation. Mais c'est vrai de la crise.
Voilà, sauf qu'on n'en prend pas le chemin sur
non,
le terrain.
Non, pas du tout. Pas du tout, parce que, si vous voulez, les interventions étrangères occidentales dans la région apparaissent comme des interventions coloniales. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Parce que, même avec les meilleures intentions du monde, quand vous arrivez au fin fond d'un village afghan avec des soldats occidentaux, ils ne comprennent rien de la réalité de la situation. Tribale, personnelle, ethnique, tout, je dirais, est impossible à comprendre. Et donc, ça suscite des réactions. Un des problèmes en Afghanistan, c'est que, pour limiter les pertes militaires relativement importantes, c'est l'utilisation des bombardements. Mais quand vous bombardez, ben, on sait les conséquences. C'est-à-dire qu'il y a des victimes civiles, et que les victimes civiles dans des régions marquées par les relations tribales, ça fait une volonté de vengeance qui se retourne contre les Occidentaux, qui est manipulée par les talibans. Donc, encore une fois, je veux dire, je ne sais pas, il n'est pas facile de savoir quelle est la voie de sortie, si vous voulez. Mais c'est évident que la voie empruntée aujourd'hui par les Américains et par l'OTAN est une voie sans issue. Mais un des dangers, il faut le rappeler, c'est que on a des interventions maintenant de l'OTAN, ce qu'on appelle hors zone. Je veux dire, Nicolas Sarkozy, quand il était à Londres, a fait un discours dans lequel il dit: il ne faut pas diriger le monde du 21e siècle avec les institutions du 20e siècle. Mais je veux dire, s'il y a une institution du 20e siècle, c'est l'OTAN. L'OTAN a été créée pour la guerre froide face à l'Union soviétique. Quelle est la légitimité aujourd'hui de l'OTAN? Il n'y a pas de légitimité. Il y a la volonté des Américains d'en faire un élément d'intervention globale dans le monde, c'est-à-dire un bras armé des pays, alors selon les termes, on va les appeler occidentaux, démocratiques, etc., pour régenter le monde. Avec une intervention aujourd'hui en Afghanistan, demain au Liban, ailleurs. Ce qui est, il faut le dire malheureusement, alimente tous les discours sur la guerre des civilisations. Parce qu'il faut voir comment c'est perçu en Afghanistan, dans le monde musulman, etc., comme l'intervention du monde occidental contre le monde musulman.
En tous les cas, on aurait eu Nicolas Sarkozy pour président en 2003... Les troupes françaises seraient en Irak actuellement.
Oui, tout à fait, mais je veux dire...
Et les cercueils reviendraient.
Et les cercueils reviendraient, mais je pense que depuis l'arrivée à la présidence de Nicolas Sarkozy, le gouvernement a essayé de faire, entre guillemets, des gestes en direction de l'Irak en envoyant Bernard Kouchner en Irak. C'était une manière de légitimer la présence américaine là-bas, alors qu'on sait qu'il n'y a pas de sortie de crise. Et contrairement à ce qu'on lit partout, à mon avis, les Américains ne vont pas quitter l'Irak et ils ne quitteront pas, à mon avis, quel que soit le résultat de l'élection présidentielle.
Continue avec le diplôme du mois d'avril avec Serge Halimi qui signe l'édito de ce mois-ci. sur le protectionnisme. Et il y a un lien avec ce que Alain Grèche décrivait.
Un lien direct, puisque l'objectif, effectivement, de Nicolas Sarkozy et du gouvernement français est de donner des gages aux États-Unis et à George Bush, sous couvert de ne plus être anti-américain. C'est une expression qu'on a entendue il y a quelques jours dans la bouche de François Fillon, dans son discours à l'Assemblée nationale, qu'a reprise à peu près au même moment Pierre Moscovici pour le Parti Socialiste, en disant il faut surtout pas être anti-américain. Et l'idée de Nicolas Sarkozy, c'est que effectivement la France est en quelque sorte, même s'il ne le formule pas comme ça, un peu égarée en 2003, en s'opposant, et avec quelle détermination, à l'équipée américaine. Alors si je dis qu'il y a un lien avec le thème que j'évoque ce mois-ci, qui est le thème du protectionnisme et le contrat qui a été remporté par EADS avec le Pentagone, c'est que il y a quelques semaines, Nicolas Sarkozy, dans un entretien, a eu cette phrase « Peut-on penser une minute que le contrat qu'a gagné EADS pour les avions ravitailleurs aurait été signé dans le climat de tension qu'on a connu entre la France et les États-Unis. » Donc, vous voyez, ça n'est même pas un procès d'intention, c'est juste une citation qui indique bien que dans son esprit, il est important d'avoir des relations aussi apaisées que possible avec les États-Unis et que de ces relations apaisées découleront un certain nombre d'avantages, y compris commerciaux. D'ailleurs, pour faire le lien avec la campagne présidentielle, il faut préciser que John McCain était lui-même favorable au contrat avec EADS et qu'il estimait que c'était une meilleure affaire pour l'armée américaine. Alors, est-ce que c'est une très bonne affaire pour EADS? Je ne sais pas, mais il faut relativiser quand même notre allégresse quand on sait que le moteur de ces avions sera un moteur General Electric, que l'avion sera construit avec l'entreprise américaine Northrop et qu'il sera assemblé en Alabama.
Mais c'est quand même EADS.
Voilà, c'est
écrit dessus.
Voilà,
c'est la marque qui compte.
C'est écrit dessus. Et plus généralement, donc, il y a cette volonté de Sarkozy de se rapprocher avec les États-Unis, avec Bush. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est de savoir si c'est une très bonne idée, compte tenu du fait que le 20 janvier 2009, quoi qu'il arrive, George Bush ne sera plus à la Maison Blanche. Alors, pour en revenir à ce qu'on a évoqué à propos de l'Afghanistan, il faut voir que même si Bush n'est plus président le 20 janvier 2009, tous les candidats américains s'accordent assez largement sur la présence en Afghanistan. Autant il y a des divergences qui sont sérieuses à propos de l'Irak, puisque Barack Obama s'est opposé dès le départ à l'invasion de l'Irak par les troupes américaines.
Ce qui n'est pas le cas d'Hillary Clinton.
Ce qui n'est pas le cas d'Hillary Clinton, qui au contraire, elle, avait voté pour et avait même fait part de son soutien déterminé au président des États-Unis à l'époque. Quand il s'agit de l'Afghanistan, la critique que les démocrates font à George Bush, c'est précisément de s'être tellement engagé en Irak qu'il n'avait plus les moyens militaires suffisants pour conduire les opérations en Afghanistan. En un sens, on peut donc penser que Nicolas Sarkozy se dit que sur cette question de l'Afghanistan, que McCain soit président ou que Clinton ou Obama soit président, la prochaine administration américaine lui saura gré de participer à l'effort de guerre des Occidentaux.
Sarkozy est pour la loi et l'ordre. Il est libéral en économie, il est pro-américain. Il a rencontré le président Bush à Washington en septembre. Il a même fait quelque chose d'incroyablement dangereux en politique française. Il lui a serré la main.
Friend journalist called me Sarkozy the American. Let me tell you one thing. I am proud of it. Come on.
Voilà, on continue toujours avec le diplôme de ce mois d'avril avec Pierre Jourde qui s'est penché sur la réforme de l'enseignement supérieur. De quoi s'agit-il ?
Bon, l'université va pas bien, c'est pas nouveau, c'est une sorte de malade perpétuel que l'université, ça fait un certain nombre d'années que ça dure et ça fait un certain nombre d'années, ça se compte par dizaines, que l'université, on la réforme. Personnellement, en 15 ans d'université, le temps de comprendre la réforme précédente, parce qu'en général c'est pas simple, il y en a une autre qui me tombait dessus, donc je passais à l'autre. Au bout d'un certain temps, j'ai fini par renoncer à comprendre. Arrive la réforme Pécresse, on se dit, bon, ça va peut-être être la bonne, celle-là, on va enfin changer les choses et être un peu tranquille.
Vous dites nous, c'est vous enseignez à l'université.
J'enseigne à l'université, oui, à l'université de Grenoble 3. Et en fait, c'est assez curieux ce qui s'est passé. C'est-à-dire que il me semble que le projet Pécresse aggrave un certain nombre de problèmes au lieu de les résoudre, ou crée des faux problèmes. L'un des problèmes de l'université française, c'est que nous sommes concurrencés par les grandes écoles. C'est-à-dire que les vrais systèmes professionnalisants, là où on trouve du travail, c'est les écoles spécialisées, les écoles d'ingénieurs ou les grandes écoles. Les systèmes d'enseignement professionnalisants, ils sélectionnent. Nous, on sélectionne pas. Alors, la réforme Pécresse a consisté sur ce point, trouver du travail pour un étudiant, ce qui est effectivement semble être le but des études supérieures, à aménager la chèvre et le chou, c'est-à-dire à dire de manière absurde, nous ne vous sélectionnerons pas, parce que sélectionner, c'est pas gentil, c'est tabou, mais on va être professionnalisant. Et moi, je voudrais comprendre comment on peut faire les deux, en fait. Ça me paraît un petit peu difficile. Et puis, professionnalisation, ça me pose aussi des problèmes. Parce que ça veut dire quoi, professionnaliser? Ça veut dire qu'on va former des petits juges qui ont la tête bourrée de droit, qui sauront pas ce que c'est un peu que l'humanité. Ça s'apprend comment, l'humanité? Ça s'apprend par les humanités, précisément. Et il me semble que l'un des buts de l'enseignement supérieur, c'est former aux humanités, c'est-à-dire avoir la vue un peu plus large que le boulon social qu'on aura à visser quand on sera professionnel. Donc je me méfie beaucoup de cette idée de professionnalisation. Trouver un débouché pour les étudiants, certes, mais pas aux dépens de la nécessaire ouverture d'esprit qui est assurée par les études supérieures. Ça, c'est un point que ne résout pas la réforme Pécresse. Valérie Pécresse s'est répandue sur les ondes en disant « il faut un an pour recruter un professeur », c'est ce qu'on a vu, c'est pas vrai. Les enseignements sont toujours assurés à l'université. Par contre, moi, il m'a fallu un an pour tenter de faire payer un conférencier 60 euros, il les a toujours pas. Il a renoncé. C'est ça notre quotidien à l'université. Il faut loger les gens, alors c'est la loi, je sais pas si ça a peut-être un peu augmenté, dans un hôtel à 37,50 euros. Alors moi, je le dis, j'en profite sur les ondes, hein. J'ai fait, toute ma vie à l'université, j'ai fait des fausses factures, mettez-moi en prison, parce que j'ai jamais réussi à loger quiconque à 37,50 euros. C'est comme ça. Mais ce sont les lois qui nous régissent. Et il y en a un paquet, je peux vous dire, qui nous régissent à l'université. C'est là-dedans qu'on doit nager. Et s'il y a des choses qu'il faut réformer, c'est peut-être ça.
C'est ça qu'il faut professionnaliser.
Oui, c'est l'État qu'il faudrait professionnaliser, en effet, parce qu'on voit passer au ministère de l'Enseignement supérieur des gens, nos élites ne sont pas formées à l'université. Ils sont formés aux grandes écoles, tous. Donc ils ne connaissent pas l'université, je dirais même qu'ils la méprisent, ils ne connaissent pas ses problèmes. L'autre dimension du problème, c'est la formation des professeurs, et surtout le recrutement des professeurs. Nous nous recrutons nous-mêmes. Cela donne, en général, on voit arriver pour un poste à l'université 40 malheureux qui ont Normal Sup, la Greg, une thèse, pour un poste, sur lequel ils vont commencer à 1500 euros par mois, hein, je tiens à le dire quand même. Hein. Donc qui ont fait ces années d'études-là. Et qui est-ce qui sera recruté sur les 40? C'est le protégé du mandarin local. Alors s'il y avait aussi quelque chose à réformer, c'était ça. Et bien, c'est exactement le contraire qui est fait. Parce que la réforme Pécresse donne beaucoup plus de pouvoir aux présidents d'université, c'est-à-dire aux mandarins locaux, en effet, qui vont pouvoir faire exactement ce qu'ils veulent en termes de recrutement, c'est-à-dire éventuellement recruter les médiocres serviles à la place des gens véritablement compétents. La tradition universitaire, depuis le Moyen-Âge, c'est une tradition du voyage. C'est-à-dire que les étudiants, les professeurs, savent ce que c'est que l'Europe, par exemple. Eh bien, aujourd'hui, à l'université, on ne sait même plus ce que c'est que la France. Le rêve de l'étudiant et du professeur, c'est de s'enfermer dans son petit bled et d'y creuser son fromage. Et cela, la réforme Pécresse ne va pas l'améliorer, elle va, telle qu'elle est actuellement, l'aggraver.
Bon, voilà une chute assez terrifiante, quand même.
Trop lourd pour leurs pauvres guiboles, bols plus morts que vivants. Mes enfants s'en vont à l'école, le col du gouvernement. Par décision du ministère, terre de l'enseignement. Ils prennent la couleur austère, terre des enterrements. Mes petits morts entre deux rives, rives d'hôpitaux blafards. Apprennent dans le poids des livres, livres le cours du cafard. Parabia da 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 da. L'instituteur ignare et terne à mes petits morts, enseigneur à ceux qui concernent, cerne le respect de l'or. Ils vont multiplier les poires par le prix du lard. Combien de sang dans la baignoire noire pour faire un dollar? Mes petits morts vont à l'école, le col triste infiniment. S'incliner devant l'auréole, hall du gouvernement. Plus tard la peur les fera taire, ou mordre selon qu'on rectifiera leur salaire, l'air à leur gré ou non. Ils vont recevoir pour algèbre le mépris d'abord, pour devise écraser le faible, caresser le fort. Mes petits morts vont à l'école, le col sans étonnement. Célébrer l'amour du pétrole, le troll du gouvernement. Dans leur jeu de morse, des chaînes, en fait d'exutoire, la gaieté des bœufs qu'on entraîne, traîne pour les abattoirs. Je frémis quand je considère d'air qu'un avortement aurait privé d'un militaire terre le gouvernement. Sur leurs jambes devenues molles, molles incurablement. Mes enfants s'en vont à l'école, le col du gouvernement.
Alors, on continue avec Maurice Lemoine. Qui dit Maurice Lemoine dit Amérique latine. Et là, on va parler de Cuba, pas exactement de Cuba, mais de Miami, c'est-à-dire la colonie cubaine de Miami, qui est évidemment un foyer très anti-castriste. Même si à Miami, on peut rencontrer des Cubains de Cuba qui viennent travailler en Floride ou à Miami et qui sont là uniquement pour envoyer de l'argent à la famille, mais qui ne sont pas pour autant de furieux anti-castristes. Maurice.
Si tu l'as bien résumé, on peut passer à autre chose.
je me suis baladé à Miami. Voilà.
Miami, c'est la capitale de l'Empire, enfin oui, depuis l'Amérique latine, c'est la Wall Street de l'Amérique latine, c'est le... et en même temps, Miami, c'est la capitale de l'anticastrisme. Hein, c'est une ville où il y a 650 000 Cubains, où il y a presque autant de Latino-Américains, et où les anglo-saxons ne sont pas la majorité. Hein. Miami est une ville latine. Alors, on connaît Miami effectivement à travers l'exil radical anticastriste. Les possédants, les fortunés, les grands propriétaires, ou les anticommunistes d'ailleurs, encore qu'à l'époque, oui. Castro ne s'était pas déclaré communiste, partent en exil. Dans les années 70, on va avoir une vague d'employés, d'artisans, d'enseignants qui sont aussi opposés à la révolution. Et va se créer à Miami le noyau dur de l'hostilité à Cuba, hein, puisque en lien avec les administrations américaines successives, vont s'organiser à Miami un certain nombre de groupes. Alors, on est toujours prudent avec le mot terroriste. Hein. Parce que c'est un mot qui a été complètement galvaudé, dévoyé, etc. Hein. Mais se créent à Miami des dizaines de groupes financés par la CIA, donc financés par le gouvernement américain. Alors vous avez Alpha 66, le Conseil pour un Cuba libre, Cuba indépendant et démocratique.
Reporters sans frontières.
Il faut quand même le dire. Je veux dire, ces groupes violents vont faire entre le début de la révolution et aujourd'hui 3400 morts à Cuba. Hein. C'est-à-dire, en gros, c'est plus que les victimes du World Trade Center. On est donc dans une configuration d'hostilité totale. Sauf que, petit à petit, la composition sociologique des Cubains de Miami va changer, dans la mesure où, en 1980, vous vous en souvenez, on a la grande vague des Marialitos. Il y a une crise à Cuba, une crise importante, et il y a 135 000 Cubains qui partent à Miami. On a affaire à des gens qui sont pas des anticastristes radicaux, qui sont pas forcément des anti-révolutionnaires, qui ont des critiques contre le système, mais qui partent fondamentalement pour des raisons économiques. C'est-à-dire, la vie à Cuba est extrêmement difficile, l'austérité, et donc le mirage américain, comme le même mirage américain que celui qui attire les Mexicains, les Équatoriens, les Salvadoriens, les Colombiens, il y en a 20 comme ça, hein, des pays latino-américains. Et puis on va avoir une deuxième vague en 1994, ce qu'on a appelé la vague des balseros, hein, qui sont des gens qui tentent de partir de Cuba dans des conditions parfois dantesques, ahurissantes, par la mer, avec des embarcations de fortune. Il y en a même qui partent sur un cheval, enfin c'est des trucs ahurissants. On est à Cuba dans ce qu'on appelle la période spéciale, c'est-à-dire que l'Union soviétique s'est effondrée, Cuba a perdu son seul appui économique, et donc on a une fois de plus 35 000 Cubains qui partent, parce que il faut vivre, parce qu'il faut manger, parce qu'il faut nourrir la famille. Évidemment, c'est pas du tout la même logique que les anticastristes du départ. C'est-à-dire que ces Cubains qui partent, y compris pour envoyer de l'argent à leur famille, souhaitent pouvoir retourner à Cuba, voir la famille, en vacances. Il y a des choses amusantes que me racontent les Cubains à Miami. C'est-à-dire que ces Cubains qui, lorsqu'ils sont à Cuba, se plaignent en permanence que Fidel Castro les laisse pas voyager. Ce qui est vrai. Bon. Et ils me racontent, une fois qu'ils sont arrivés à Miami, ils bougent plus. Le monde ne les intéresse pas, et la seule chose dont ils ont envie, c'est d'aller passer 15 jours à Cuba quand ils le peuvent. Et effectivement, comme avec les autres pays d'Amérique latine, les fameuses remessas, les dollars qui arrivent de Miami, vont aider la société cubaine, hein, à travers les familles. Donc on a deux logiques. Cela étant, l'extrême droite cubaine tient Miami. Elle tient Miami grâce à son pouvoir économique, elle tient Miami grâce aux médias. Et donc, il y avait une espèce de statu quo. Sauf qu'en 2004, le président George Bush prend des mesures encore plus radical pour renforcer l'embargo. Il y a un rapport de la Commission pour l'aide à un Cuba libre. Et là, ça se complique, parce que dans les mesures qui sont prises pour durcir l'embargo, on a la restriction à l'envoi d'argent, c'est-à-dire qu'on ne peut plus dépasser 1 200 dollars par an. On a une limitation des voyages, là où les Cubains de Miami pouvaient, enfin des États-Unis d'ailleurs, pouvaient voyager une fois par an à Cuba, maintenant c'est une fois tous les 3 ans et pas plus de 14 jours. Il y a une réduction des fonds qu'on peut emporter, c'est de passer de 3 000 dollars à 300 dollars. Et là, d'un seul coup, il y a une révolte à Miami. Parce que les gens ont comme préoccupation leur famille, ceux qui sont restés là-bas, qui veulent pouvoir aller voir. Et du coup, les républicains qui tenaient Miami, à travers 3 personnages qui sont très connus, qui sont liés au terrorisme, enfin au terrorisme anti-cubain, qui sont liés à toute cette mafia, parce qu'il y a un côté mafia dans toute cette histoire, l'extrême droite cubaine est liée au narcotrafic, c'est pas une accusation gratuite, hein. Je veux dire, on pourrait détailler. D'un seul coup, là, il y a une révolte. Et donc, les 3 représentants, la Chambre des représentants, d'un seul coup se voit menacé lors de la prochaine élection de novembre, puisque les démocrates ont pigé, ont compris, ont senti la sensibilité à Miami et sont en train de s'emparer de ce thème, non pas pour supprimer l'embargo, hein, les 3 candidats qui se présentent, c'est pas pour supprimer l'embargo, mais pour assouplir les conditions qui ont été faites aux Cubains de Miami. Ce qui fait que, en quelque sorte, on pourrait, en novembre prochain, s'ils sont élus, les 3 sont sans doute pas élus, hein, mais il pourrait y en avoir 2, il pourrait y en avoir 1, mais ça serait en tout cas la première fois depuis 50 ans que l'extrême droite cubaine de Miami subirait un coup puissant, et évidemment ça aurait des influences extrêmement importantes sur le travail de lobby qu'ils font à Washington. Donc on est quand même à un moment très intéressant.
Jersey are beautiful.
Me gustaría regresar.
It would please me to go back.
Aunque no están lejos,
although they're not far,
no puedo,
I can't do it.
Es imposible el volver.
Somehow I just can't go.
Sé bien que hay trenes y guaguas. Por alguna razón nunca encuentro la vía. Yo quiero verla
una vez
lo más de New Jersey. Yo quiero verla
una vez antes de morir.
Antes de morirme.
With their fragrance.
Cuando llega el viento.
When the wind blows.
Y como recuerdo.
How I remember.
La alegría.
The happiness.
Que ahora he perdido.
That now is lost.
Por bien o por mal. Allí he nacido. Yo quiero verla
una vez, solo una vez.
No más de New Jersey. Yo quiero verla y
una vez
en sueños quiero volver antes de morirme.
Ok, on va finir autour de ce numéro du mois d'avril du Monde Diplomatique avec un certain Renaud Lambert, que les auditeurs de là-bas, si j'y suis, connaissent bien. Et on va parler d'un sujet que les auditeurs de là-bas, si j'y suis, connaissent bien, c'est le Mexique. Enfin, c'est un personnage mexicain qui ressemble pas du tout à ceux dont on parle dans cette série de reportages sur la frontière mexicaine. C'est l'homme le plus riche, non seulement du Mexique, mais du monde, si j'ai bien tout compris, Renaud Lambert.
C'est presque ça. C'était l'homme le plus riche du monde. Malheureusement pour lui, on va verser une larme à son sujet, il n'est plus que numéro 2. Alors, c'est l'an dernier, à peu près au mois de juillet, qu'est tombée la nouvelle. Carlos Slim, un Mexicain, donc il fait pas partie des pays du premier monde, était devenu l'homme le plus riche du monde. Et comme à chaque fois, on pourrait s'attendre à ce que ce genre de publication mène à des réactions d'incompréhension de la part qui bénéficie moins que les milliardaires de l'accroissement des inégalités, que ces gens-là se disent, bon, ben, voilà, il y en a assez. Mais non. Ce qui se passe dans ces cas-là, c'est qu'on nous explique que, écoutez bien, regardez tous ces gens, un jour votre tour viendra.
Être pauvre, c'est être un futur riche.
Exactement, exactement. Et en fait, le magazine Le Point expliquait en juillet 2007, qui n'a pas rêvé de se réveiller un matin en faisant partie de la grande famille des millionnaires? Soyez confiants, cela peut encore vous arriver, les nouveaux millionnaires en dollars poussent comme des champignons.
Alors, c'est la Française des Jeux, ça, non?
Oui, c'est ça, Le Point, la Française des Jeux, c'est à peu près la même chose. Alors, ce qu'on va faire, Daniel Mermet, si vous voulez bien, c'est qu'on va essayer de donner la recette aux auditeurs, pour voir un peu comment faire pour devenir, à leur tour, super riches. Alors, ça commence par un avertissement. Il faut faire très attention à garder profil bas. C'est-à-dire que les super riches, type Carlos Slim, mais c'est aussi le cas de Bill Gates, dont on se souvient qu'il avait plutôt un profil de grand neuneux que de Nicolas Sarkozy bling bling, et bien eux, ces gens-là, ont compris que les gourmettes en or et tout ça, ça ne marchait pas. D'ailleurs, dans la presse, quand on présente Carlos Slim, on dit « c'est un gars sympa, qui conduit lui-même sa voiture, un père tranquille besogneux, engoncé dans des costumes informes. Un type chez qui tout semblerait indiquer l'humilité. » Mais alors, je rassure les auditeurs, faire montre de grande humilité ne veut pas dire que plus tard, eh bien, on aura à faire preuve de la même austérité dans son train de vie. Pas du tout. Carlos Slim, entre 2006 et 2007, gagnait environ 2,5 millions de dollars par heure. C'est-à-dire que depuis que cette émission a commencé, il y a à peu près une demi-heure, Carlos Slim aurait empoché 1 250 000 dollars, soit à peu près 50 années de SMIC.
Mais en faisant quoi? Parce que ça m'intéresse de savoir où je vais mettre mon argent, moi.
Eh bien, on va voir un petit peu, mais faut pas aller plus vite, faut prendre chaque étape l'une après une autre, Daniel Mermet. Je vous reconnais là votre enthousiasme. Mais je voulais dire que pour mesurer la fortune de Carlos Slim, il faut la replacer dans son contexte, le contexte mexicain que vous connaissez bien.
Oui.
Que les auditeurs connaissent bien maintenant. Je rappellerai que 40% de la population au Mexique doit se contenter d'environ 2 dollars par jour, ce qui est un budget un peu plus serré que celui de Carlos Slim, qui pèse aujourd'hui 8% du PIB, du produit intérieur brut mexicain, alors que la fortune cumulée de l'ensemble des milliardaires résidant sur le sol français, bien que conséquente et en hausse constante, atteint péniblement 4% du PIB. Alors, la première étape, c'est de bien-être. On va nous dire, mais ça c'est la mythologie capitaliste en général, qui nous dit que la fortune exceptionnelle des gens exceptionnels vient d'attributs exceptionnels. Ils sont intelligents, et c'est avant tout ça le secret de leur richesse. Le Point, à nouveau, la Française des Jeux, nous expliquait, au sujet de Carlos Slim, il ne se sert pas d'un ordinateur, mais possède une mémoire des chiffres surprenante.
C'est dans quel numéro du Point, ça?
Ça, c'était en juillet 2007. Hein. Ouais.
Il ressemble plutôt à Laszlo Karédas dans Tintin. Hein, le type au veston informe, il avait tout compris, Hergé.
Exactement. Mais alors, bon, les auditeurs ont peut-être envie de devenir des calculatrices ambulantes. Moi, je leur conseille plutôt de bien-être. Parce que, comme la majorité des grandes fortunes listées par la revue Forbes, Carlos Slim est né riche. Et le mythe du self-made man, même si on en parle beaucoup, si on aime bien y faire référence, c'est pas sur la base du parcours personnel des gens qui sont effectivement riches. Alors, pour amasser les pesos, il faut bien être et se montrer généreux avec l'argent qu'on a. Parce que se montrer généreux invite les autres à se montrer généreux avec vous. Et rapidement, Carlos Slim est devenu l'un des premiers financiers du parti qui est resté au pouvoir pendant des décennies, le parti institutionnel révolutionnaire.
Et ça, le prix.
Le prix, exactement.
Et ça n'a pas... depuis 1929.
Voilà, jusqu'en 2000. Et ça n'a pas manqué de lui valoir certaines faveurs en retour. Notamment en 88, lorsque son très bon ami Carlos Salinas est arrivé au pouvoir. Alors c'était l'époque de l'ouverture aux mesures néolibérales. Et à cette époque-là, on vend à tour de bras les entreprises d'État. Et on les vend de préférence à des gens qui sont proches du pouvoir. Et entre 91 et 94, le nombre de milliardaires mexicains va passer de 2 à 24. Et le premier d'entre eux, c'est Carlos Slim. En 90, il achète l'entreprise de télécommunications mexicaine, Telmex. Alors, coup de chance phénoménal, le prix qu'on lui propose est très raisonnable. Et deuxième coup de chance absolument sensationnel, les conditions de la vente vont lui permettre de constituer un confortable monopole du jamais vu dans la région. Pas de concurrence pendant 6 ans. Alors, à partir de là, les auditeurs qui ont suivi la recette vont commencer à pouvoir récolter les bénéfices de l'application méticuleuse de ces premières étapes. Ils vont pouvoir constituer un monopole. Aujourd'hui, Telmex, donc la société de télécom de Carlos Slim, c'est 90% des lignes fixes du pays. C'est la seconde société latino-américaine cotée en bourse. et la société de téléphonie mobile, c'est 70% du marché mexicain. Un monopole qui permet d'imposer des tarifs 260 fois supérieurs à ceux des pays voisins pour les connexions Internet, 312 fois supérieurs pour la téléphonie cellulaire, et selon les dires même d'un gauchiste tel que le président de la Banque centrale mexicaine, d'avoir un impact direct sur la compétitivité de la nation. Mais alors là, il y a un personnage qu'on connaît bien aussi, là-bas, si j'y suis, qui serait ravi, c'est Éric Brunet, un journaliste qui a écrit un livre intitulé « Être riche, un tabou français ». Et Éric Brunet nous avait expliqué que un riche, ça se cajole un peu, ça se bichonne, on s'arrange pour que ses intérêts...
Ils sont victimes de répression, il y a une haine du riche en France, et Éric est là pour les sauver, pour les protéger.
C'est ça, Éric est là-bas, si j'y suis, qui fait œuvre de pédagogie en ce sens-là.
Pas seulement en France, il faut se souvenir que l'un des textes fétiches de la droite américaine, c'est la minorité la plus persécutée des États-Unis, le big business.
Voilà, et donc Brunet nous dit, ça, un riche, ça se bichonne, on s'arrange pour que ses intérêts convergent avec ceux de la nation. Dans le cas du Mexique, le président de la Banque centrale nous explique que les intérêts de Carlos Slim passent avant ceux de la nation. Mais une fois qu'on s'est constitué un monopole, eh bien on peut passer à un empire. Et en fait, dès sa naissance, par exemple dans un hôpital Medica qui appartient à Carlos Slim, le Mexicain moyen commence à enrichir Carlos Slim. Qu'il utilise un téléphone, donc, ou simplement de l'électricité, qu'il utilise du pétrole, qu'il achète un disque, un livre, une barre chocolatée ou du papier hygiénique, le Mexicain moyen déverse ses pesos dans les poches très profondes de Carlos Slim.
Et pas les proches, parce que les proches, il n'y en a pas. C'est Picsou, quoi.
Il en a, parce qu'une richesse comme ça ouvre des portes, des grands salons. Il est très proche de Bill Gates, il est très proche de Felipe González, l'ancien chef du gouvernement espagnol.
Socialiste,
voilà. Mais qui s'est transformé en lobbyiste pour Carlos Slim.
Qu'est-ce qu'il fait de bien et qu'est-ce qu'il fait d'éthique? Moi, j'attends la page éthique, parce que je suis sûr que Carlos fait de l'éthique.
Mais on va passer à l'éthique.
J'écoute
mais...
Brigitte Jean-Perrin, je sais qu'il faut faire de l'éthique.
Il fait de l'éthique, mais avant de faire de l'éthique, il distribue à ses 220 000 employés dans des dizaines et dizaines d'entreprises des petites brochures dans lesquelles il dit « Il faut augmenter la productivité, la compétitivité et réduire les coûts ». Alors ça, c'est l'audace, c'est la prise de risque qu'on salue en France, notamment Laurence Parisot, qui nous explique que la richesse des plus riches, notamment les chefs d'entreprise, vient de leur capacité à prendre des risques. Mais il y a toujours des bougons. À France Inter, j'entends déjà des auditeurs dire « mais voilà, hein, quelqu'un qui est riche à ce point, ça pose problème ». Et pour essayer de contre-attaquer contre ces bougons, les gens qui ne supportent pas la richesse des plus riches, eh bien, en général, ce qu'on met en œuvre, c'est le philanthropisme. Et ça, c'est l'éthique, c'est la transparence, c'est la morale. Et Carlos Slim n'a pas été en reste, même s'il a expliqué quand même qu'il n'avait, je cite, « pas l'intention d'aller distribuer sa fortune à gauche et à droite, comme le Père Noël ». Ça ne l'a pas empêché de distribuer dans les dernières années 200 000 opérations chirurgicales, 70 paires de lunettes, 150 bourses d'études et 95 bicyclettes.
Mais c'est le Dassault mexicain.
Totalement, exactement. Alors il explique tout ça un petit peu comme Dassault. Il l'explique, je le cite, « Nous avons besoin d'une population mieux éduquée et en meilleure santé. » Parce que c'est bien connu, des ouvriers en bonne santé, c'est des usines qui marchent mieux. Et Carlos continue, « Puisque les citoyens qui ont de meilleures conditions de vie sont de meilleurs clients, lutter contre la pauvreté n'est pas uniquement une question éthique et morale, c'est aussi une nécessité économique. » Et donc, en conclusion, à la destination des auditeurs, je pense que la leçon à retenir, c'est, quand on regarde un petit peu la démarche à suivre pour devenir vraiment riche, héritage, connivence politique, constitution d'un monopole, exploitation des salariés, philanthropie paternaliste, eh bien, la recette pour devenir riche, c'est un petit peu comme pour le bœuf bourguignon, c'est les plus anciennes recettes qui marchent le mieux.
Moi, je trouve que cette présentation est un peu sombre parce que je me souvenais d'un éditorial de Jean-Marc Sylvestre qui expliquait que l'apparition de milliardaires dans le Sud était la preuve que les fortunes étaient mieux réparties dans le monde.
Merci à tous. C'était l'équipe du Monde Diplomatique. Vous les aviez reconnus, Serge Halimi, Renaud Lambert, Pierre Jourde, Maurice Lemoine et Alain Grèche. Et ils ne sont pas seuls dans le numéro de ce mois-ci du Monde Diplomatique. Et puis par curiosité, pour voir jusqu'où la presse peut s'abaisser, je vous conseille de vous procurer le 13e numéro du Plan B qui sortira en kiosque demain avec à la une, écoutez bien, un odieux amalgame
À bas l'Europe, à bas le quatrième Reich, un journal absolument honteux en vente partout à partir de demain. Toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter à la rubrique émission là-bas si j'y suis, où vous pouvez réécouter cette émission ainsi que sur là-bas.org, la-bas.org, à la technique Olivier Riotor et Michel Bézikian, Yann Chouquet et Raphaël Moutard ont réalisé cette émission ainsi que de Charlotte Perry et Christophe Imbert. Attend vos messages au répondeur de là-bas si j'y suis, dont le numéro est le 01 56 40 37 37.